chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue ou des effets de mode un peu trop installés. C'est Thibaut Prébé qui nous accompagne aujourd'hui pour Arbevel. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Oh, la bourse, c'est les riches qui en profitent. Il faut davantage taxer les revenus boursiers, du coup. On l'entend beaucoup, cet argument, mais vous dites bullshit. Vous foudroyez. L'idée que la bourse, c'est pour les riches et qu'il faut donc davantage taxer les revenus boursiers. Pourtant, il faut quand même reconnaître que la valeur du travail, bien plus que le capital, cette valeur, travail même, apporte de la valeur.
Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette espèce de logique qui est très politique, hein, qui est très française, d'essayer d'opposer le travail et le capital et de dire c'est les travailleurs qui bossent, le capital ça sert à rien et c'est des parasites. Ce qui est un résumé un peu facile de la situation. Pour autant, et les grands patrons servent à rien aussi. Pour autant, si on regarde sur 5, 6, 10 ans, c'est pas complètement clair de se dire que tous les salariés de Volkswagen sont débiles mentaux pendant que ceux de Stellantis sont tous des génies. Et pour autant, il y a des trajectoires qui sont complètement opposées. Donc il y a quelque chose qui va un peu plus loin que ça. Deuxième point, c'est qu'on a besoin que les gens investissent pour que les sociétés aient du capital. Si on arrive à faire des champions aux États-Unis énormes, et qu'en Europe, on n'y arrive pas, c'est pas parce que tous les salariés américains sont déments et qu'en France, personne ne fout rien. C'est parce qu'on a du capital qui permet d'investir, de faire de la R&D, d'essayer de créer assez rapidement des champions et décourager tout le temps l'investissement en actions en disant qu'en gros, c'est un truc de parasite. Je pense que c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement français. Et là, il y a vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Cette espèce d'idée que la bourse est une énorme manne est complètement délirante. Enfin, je vous rappelle que pour quelques valeurs qu'on cartonnait, il y a des champs de ruines sur les petites et moyennes valeurs aux États-Unis. C'est vrai aussi en Europe. Je vous rappelle que beaucoup de boursicoteurs français adoraient s'amuser avec les small cap, en particulier par exemple les biotech, où il y a eu un nombre de cartons colossal. Et ces gens qui ont perdu leur argent, l'idée qu'ils se gavent facilement, sans risque, c'est pas exactement leur ressenti. Des gens qui ont parié sur l'Asie ces dernières années ont perdu énormément d'argent. Donc voilà, résumé en disant il y a 2-3 valeurs qui ont explosé, ça veut dire que c'est facile et que en fait tous les gens qui gagnent en bourse se gavent et qu'il faut juste aller leur prendre une partie de leur pactole. Je pense que c'est une vision qui est simpliste et totalement fausse de l'investissement.
Julien.
Surtout que c'était si facile que ça, on le ferait tous. Hein. Et que les nominaux ne sont pas assez élevés pour décourager les petits investisseurs. Bref. Mais concernant la fiscalité, on dit souvent que la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, a permis de baisser les prélèvements et que donc ça a permis aux actionnaires de vraiment s'enrichir. Vous êtes d'accord avec ça ?
Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que déjà, il y a toujours eu du PEA, l'assurance vie, d'autres moyens de payer moins. Ce qui fait qu'en fait, l'investissement en compte-titres simple était même plus possible, parce qu'à un moment, ça coûtait trop cher, et ça l'est redevenu. Il faut pas oublier que, l'investissement, on peut gagner et perdre. Et donc, quand on perd, on n'a pas d'économie d'impôt ou de cadeau, sauf évidemment à compenser d'autres gains. Mais donc, si on perd, on perd. Voilà. Et si on gagne, il faut en payer une partie. Et si c'est 50, en cumulant les prélèvements et les impôts quand vous gagnez et que vous enlevez rien quand vous perdez, à un moment, la somme, elle est beaucoup trop négative pour motiver les gens. Et pour autant, on a plein d'entreprises qui ont besoin d'argent. L'entreprise, elle trouve que les salariés, que les travailleurs sont top, mais il faut quand même les recruter à un moment. Et quand on fait des projets, quand on fait de la recherche et développement, il faut les payer avant que ça produise. Donc il faut avoir de l'argent d'avance. Et si cet argent, il n'est jamais mis à disposition, alors on peut dire que c'est le rôle de l'État, mais c'est des montants beaucoup trop importants, il n'y a rien qui se fait. Et donc il faut arrêter de se toujours décourager l'investissement. Et c'est vrai qu'en plus, avec cette idée que tout le monde est venu maintenant sur le non-coté, entre ce non-coté et les très grosses boîtes qui sont soi-disant hyper faciles, enfin on a vu plein qui étaient des géants qui sont devenus des semi-poubelles, il n'y a pas grand-chose. Et pour autant, essayer de culpabiliser cet investissement dont on a énormément besoin et cette culture de l'investissement, c'est ultra dangereux. Et ça, je pense qu'il y a un truc. Et là-dessus, la fiscalité sur la flat tax, faire quelque chose de simple et de lisible est un vrai apport. Et se dire, c'est rien, c'est gratos, je pense que ce n'est pas vrai. Et dans d'autres pays, d'ailleurs, après, tous les pays sont différents. Il y a des pays type Suisse où on ne fiscalise pas les plus-values, mais on fiscalise beaucoup le rendement. Il y a des pays comme le Portugal où c'est l'inverse.
Mais la flat tax à 30% en France, elle nous situe comment par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes de taxation, de prélèvement sur les revenus boursiers ?
Globalement, on est revenu dans quelque chose qui est plus près de la norme. Le problème, c'est que comme chaque pays a ses niches, ses moyens d'éviter, etc., c'est des comparaisons qui sont hyper compliquées. Mais ce qui est sûr, puis il y a ces abattements en fonction de ses durées, en fonction des pays. Mais ce qui est très clair, c'est que il faut sortir l'idée que l'investissement n'est pas risqué. Il est risqué, donc il doit être valorisé. Donc certes, quand il rapporte de l'argent, il doit créer une contribution, mais il faut pas oublier que cet argent a souvent déjà contribué avant d'être placé. Et il faut ensuite accepter l'idée que il faut pas non plus qu'on crée une telle asymétrie entre le gain et la perte que plus personne n'a envie d'y aller. Et mais ça, c'est quand même un sujet.
Mais l'argument des anti-bourses, c'est de dire, oui, l'argent que les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou grands investisseurs, riches ou pas riches, c'est que cet argent, s'il allait ailleurs, serait peut-être plus utile.
Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que en fait vous avez cette idée qui est une idée ancienne de dire si vous consommez ça fait des petits, et si vous épargnez ça reste sur un compte, ça fait rien. Et ça c'est quand même intéressant, mais à un moment l'État il a une dette, faut quand même la financer. Donc si personne ne vient financer l'État, c'est quand même un vrai problème. Donc certes, c'est pas de l'argent qui est consommé, mais enfin bon, c'est quand même de l'argent dont on a besoin. Les entreprises, elles ont besoin de lancer des projets. Enfin, je veux dire, on a des sociétés américaines qui ont des budgets de R&D en milliards de dollars. En milliards. Et c'est ça qui fait qu'ils trouvent des trucs et qu'ils nous éclatent et qu'ils font OpenAI. Cet argent, il est très utile. Si les gars consommaient uniquement au lieu de le mettre sur la table, ils seraient pas là. Donc c'est vrai que flécher vers l'épargne utile, et c'est des choses qui sont tentées avec des coûts du capital améliorés, des aides par exemple pour l'assimilement des valeurs vertes dans les petites valeurs, c'est très important pour essayer de s'assurer qu'on va vers des choses qui sont un peu plus productives que simplement prendre une rente. Mais la réalité, c'est que c'est un investissement qui n'a rien de parasitaire. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous voyez bien que quand vous avez vos Grecs qui consommaient plein d'argent, plein plus que ce qu'ils gagnaient, on venait les engueuler en disant qu'ils étaient malades et que les Allemands leur tapaient dessus. Et quand on épargne, on vous dit que c'est très mal d'épargner, il vaudrait mieux consommer. Bon, il y a un moment, il faut aussi pouvoir faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Et je pense que le flécher vers de l'investissement risqué qui est productif, c'est important.
Alors, on comprend l'intérêt de la bourse pour l'économie, pour les entreprises. Maintenant, pour l'investisseur, pour l'épargnant, pour le particulier, pour nous tous citoyens, je veux dire, on ne peut pas, comme ça, rayer d'un trait de plume l'idée que, effectivement, la bourse, elle sera plus utile pour créer de l'effet de levier, de la richesse et du patrimoine à terme à celui qui a les moyens d'investir beaucoup en bourse que pour celui qui a les moyens de mettre à peine 20 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de ce point de vue, la bourse est plutôt un outil utile aux riches qu'à quelqu'un, qu'à ces couches de la population qui ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts et qui ne pourront pas investir grand-chose sur le marché.
Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que si vous enlevez la bourse, que plus personne ne gagne d'argent, les plus pauvres ne font pas moins pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça aide personne, en fait. Vous avez juste moins de création d'emplois, moins de jobs. Et en fait, on a tous intérêt socialement, sociétalement, à ce qu'il y ait moins de chômage, à ce qu'il y ait plus de création d'entreprises. C'est-à-dire, on est dans des pays où on est en train d'éradiquer le chômage dans énormément de zones, énormément de bassins d'emploi, pour une raison simple, c'est que la démographie s'est effondrée et que donc, on a besoin, mais on voit bien que c'est quand même mieux. C'est-à-dire que si les gens ont un job, c'est quand même mieux. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait des entreprises qui se lancent, qu'elles aient un accès au capital, qu'elles puissent lancer des projets, qu'elles puissent recruter. Donc cette idée que c'est aider les riches, oui, c'est sûr que ceux qui investissent, ils investissent pour eux. Mais cette idée, on va pas aller dans le ruissellement, qui est une hypothèse dont on sait qu'elle a des côtés un peu bidons en disant ça rend service à tout le monde, mais la réalité est que les entreprises ont besoin de pouvoir se financer en capital et en dette pour investir, pour créer des emplois, et que ça, c'est nécessaire à tous. Et que si on dissuade ça, on aura des économies qui ressemblent à des économies avec peu d'investissements, comme ont été par exemple les pays pauvres de l'Europe dans des périodes de crise, Europe du Sud particulièrement, pendant qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup d'investissements et qu'on avait des économies qui fonctionnaient très bien. Mais je veux dire, on est mieux avec des taux de chômage à 2 à 3 qu'avec 15. Donc il y a un moment où ça a aussi un intérêt que les entreprises puissent se financer et lancer des projets.
Vous sentez que la bourse attire un peu plus les particuliers, notamment les jeunes générations, où ils sont juste crypto à fond et la bourse c'est un truc pour les boomers. Enfin, comment est-ce que là-dessus, chez Arbevel, vous sentez l'évolution des...
Ouais, ça va vite, hein, parce qu'il y a quelques années, on avait cette idée qu'il fallait faire que des valeurs vertes, que c'était l'avenir, que c'était le plus important. Puis la guerre en Ukraine, tout le monde s'est rendu compte qu'au final, le pétrole et les armes dont plus personne ne voulait, c'était finalement bien. Et même peut-être pour certains ESG, c'est-à-dire que l'idée de se défendre était peut-être quelque chose qui avait un rôle sociétal qui était...
Pour avoir la paix, prépare la guerre.
...significatif. Et donc c'est vrai que du coup, ces repères évoluent très vite. Et avec effectivement ces intérêts en crypto. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une évolution de l'investissement qui était un truc presque éthique, qui est devenu un truc très vilain, que les grands patrons sont très vilains. Alors, il ne faut pas être non plus dans la caricature. Il y a aussi le sujet effectivement de rémunérations qui sont parfois délirantes, qui ne sont pas antagonistes de pouvoir assumer le fait qu'il y a des patrons qui valent beaucoup plus que d'autres. Mais pour autant, l'idée qu'il y a des limites à tout a un sens. Mais il est vrai que il y a une remise en question de l'intérêt avec cette idée que quelqu'un qui gagnerait beaucoup d'argent en finançant l'économie serait un parasite, qui est quelque chose de très dangereux.
Dangereux, c'est vrai, vous l'avez répété, vous êtes inquiet. Ça fait plusieurs fois que vous répétez, c'est dangereux. C'est
oui, parce qu'on voit dans ce système-là qui en fait nous autodétruit. Bon. C'est-à-dire que l'idée que les géants de la tech, de la croix de trucs,
en
Chine, aux États-Unis,
que
nous idée... regardent en disant les riches sont vilains, ça n'aide personne.
Et ce qui vous embête, c'est que cette idée, elle monte en puissance. Elle est très populaire.
Elle monte en puissance, mais vous savez, vous avez la même chose sur d'autres segments. Si on prend la guerre entre la Chine et les États-Unis sur le front économique, c'est populaire aux États-Unis de taper sur les Chinois, ça aide personne. Et toutes les boîtes américaines se disent, moi, ça m'aide pas que je me fasse plomber en Chine parce qu'on vient taper là-dessus. On a tous un peu nos maraudes politiques qui ont des répercussions. Mais c'est une maraude dangereuse.
Sans que Julien vous tiquez.
Non, mais l'idée que la bourse enrichit surtout les riches, très sincèrement, on a une caisse de résonance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et notamment de la part des politiques qui finalement, ils ont raison, ils jouent finalement leur leur musique à leur, pour des raisons électorales. C'est leur job, j'ai envie de dire. Mais elle existait déjà auparavant, sincèrement.
Ah, bon, bien sûr.
Dans les années 90, le patron de PSA, il se faisait démolir. Hein.
Et il devient de moins en moins rationnel de contourner la bourse dans ses investissements. Je vous demande ça, par exemple, par rapport à l'avenir des retraites. Voilà, je prépare ma retraite. Est-ce que, préparant ma retraite, je dois porter une idée, avoir une opinion négative de la bourse, ou au contraire, je dois apprendre à me dire que la bourse est mon allié, voire sera ma bouée de secours?
Alors c'est vrai qu'il y a un côté tout à fait contradictoire et intéressant de lire que en bourse tout le monde se gave et que c'est royal au bar en faisant rien, et qu'en même temps il ne faut surtout pas que les retraites soient en partie capitalisées. Ce qui est quand même une contradiction qui est totalement étonnante, puisque a priori si on se gave facilement, on aurait tendance à dire qu'en ayant 40 ans devant soi, ça paraîtrait pas idiot de placer l'argent comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est rentré dans une phase d'effondrement démographique, et où donc les taux, les rapports entre les actifs et les retraités, le taux de dépendance, on peut appeler, va se dégrader tout le temps. C'est vrai qu'en retraite par répartition, on voit bien qu'on a un problème qu'on essaye de nier et qui augmente à chaque fois, et que l'idée que chacun puisse avec son travail préparer sa propre retraite a quand même plus de sens. Et on l'a vu au Japon, c'est-à-dire qu'on a eu cette idée que c'est pas grave, chacun aurait sa retraite, et puis on se termine avec des gens qui vivent chez leurs enfants et chez leurs petits-enfants parce que on n'a pas de quoi financer les retraites si le nombre de retraités augmente trop. Donc la notion de dire qu'il y a évidemment un besoin de répartition, en particulier parce que la notion de solidarité est une notion clé à laquelle moi je suis extrêmement attaché, mais qu'en même temps ajouter une partie de capitalisation pour essayer de travailler sur ces problématiques de ratio de dépendance et de dégradation du solde retraité versus le solde actif est quand même probablement quelque chose d'assez obligatoire et auquel il faut réfléchir sans caricature, sans posture, mais avec l'idée qu'il y a probablement besoin d'un peu de tout et que on n'est peut-être pas forcément dans un blocage psychologique, psychorigide, qui est très constructif en Europe sur ce sujet.
Thibaut Prévet en campagne électorale et en tournée, bien sûr, dans toute la France. Thibaut pour Arbevel.